Bonjour à tous, donc Cécile Trommer du CHU de Brest. Donc, je vais vous parler de la maladie veineuse thromboembolique et de l'hypertension pulmonaire et que retenir en 2024. Donc, c'est un sujet très vaste, donc j'étais obligée de faire des sélections puisque en fait, c'est deux maladies complètement différentes. Sur le temps imparti, c'était compliqué d'étendre l'ensemble des deux maladies. Je vais être plutôt courte sur la maladie veineuse thromboembolique puisqu'il n'y a pas eu de grandes nouveautés pour l'année 2024. Il y a beaucoup d'essais en cours et les résultats seront plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Tandis que l'hypertension pulmonaire, je vais vous rapporter ce qui a été fait au World Symposium de juin 2024 qui a été publié la fin août sur les nouvelles recommandations internationales. Vous avez ici mes conflits d'intérêts. Alors tout d'abord, on va commencer par cette première partie de la maladie veineuse thromboembolique. J'ai été obligée de sélectionner des sujets de façon assez rapide et succincte. Tout d'abord, la BPCO et la maladie veineuse thromboembolique. On va parler aussi du cancer. Rapidement, des nouveaux anticoagulants, les anti-11. Et enfin, des nouvelles techniques de désobstruction vasculaire pulmonaire. Alors rapidement sur la maladie veineuse thromboembolique et puis la BPCO, vous connaissez très probablement cet article issu de l'essai PEP qui évaluait 740 patients qui avaient une exacerbation de BPCO et chez qui on recherchait de façon systématique une embolie pulmonaire. Le diagnostic d'événement thromboembolique se produisait dans 5,9% des cas. Ce qui était important de retenir dans cet essai, qui était plutôt observationnel, c'est qu'au final, le taux de mortalité était plus important chez les patients qui avaient un événement thromboembolique de l'ordre de 25% par rapport à 5,2%. Et lorsqu'on s'intéressait plus précisément aux causes de mortalité, eh bien, le cancer était prédominant. Donc, ce qui incite quand même à se dire qu'un patient qui fait une exacerbation de BPCO qui a un événement thromboembolique, il faut être très vigilant sur la recherche du cancer chez ce patient et, à mon sens, le rechercher de façon quasi systématique. Une analyse post-hoc de cet essai a été réalisée et était très intéressante et montrait qu'au final, la purulence des crachats lors de l'exacerbation de BPCO et l'hypercapnie pouvaient être prédicteurs de l'événement thromboembolique. Du coup, il va y avoir une recherche, une méta-analyse qui est en cours, dont le design a été publié dans le BMJ cette année, justement pour rechercher dans toutes les études qui évaluaient la BPCO et la maladie veineuse thromboembolique si cette purulence des crachats et cette hypercapnie sont prédicteurs d'événements thromboemboliques. Voilà, rapidement sur la BPCO et ce qui s'est passé cette année. Alors pour le cancer, c'est très vaste, je ne vais pas refaire chaque point. Je vous rappelle les recommandations publiées de 2021 dans la revue des maladies respiratoires, les recommandations françaises faites par Inoviti, qui est en fait le réseau français de la maladie veineuse thromboembolique, qui comprend majoritairement des pneumologues, quelques cardiologues, hématologues et internistes, où la place des AOD dans la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients qui ont un cancer est de plus en plus importante. Et vous voyez que, par exemple, la Apixaban est de grade 1+, donc avec une avec un fort niveau de preuve. Point très important en 2024, c'est cette publication dans Archives of Cardiovascular Disease. C'est un numéro complet que je vous incite à consulter, qui reprend tous les thèmes de thrombose et cancer. Donc je ne vais pas vous refaire chaque article, mais ça a un intérêt, c'est que chaque point est repris avec les données de la littérature de façon très précise, et à la fin vous avez des recommandations qui sont des recommandations internationales. Donc juste quelques points quand même un peu majeurs, c'est qu'au final il faut retenir que 85% des traitements anticancéreux n'interfèrent pas avec les anticoagulants. Donc c'est plutôt rassurant d'anticoaguler un patient, sachant qu'il est traité pour son cancer. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de variations pharmacodynamiques, notamment de l'anticoagulation chez les patients qui sont traités par des anticancéreux. Mais au final, si on regarde les données cliniques, il y a assez peu de variations qui sont liées à ces variations pharmacodynamiques. Donc il y a assez peu de retentissements qui sont liés à ces interactions. Alors dans un des premiers articles de ce numéro, il est mentionné en fait toutes les plateformes internet où vous pouvez retrouver ces interactions anticoagulants et anticancéreux. Donc ça a un intérêt et c'est assez pratique. Donc je vous ai juste mentionné ce tableau ici. En effet, il y a beaucoup d'interactions potentielles entre les anticancéreux qui sont mis dans la prise en charge des cancers et les anticoagulants. Et c'est des interactions qui sont même au sein d'une même classe. Si par exemple on prend les inhibiteurs de la tyrosine kinase, eh bien on peut voir que certains sont inducteurs du cytochrome, mais ils sont aussi inhibiteurs. Et il en est de même pour la glycoprotéine P, ce qui rend les choses difficiles. Et quoi qu'il en soit, il est vraiment recommandé d'en discuter sur des réunions pluridisciplinaires. Nous, à Brest, on a organisé en un avis thrombose et une RCP thrombose. On n'axe pas que sur les questions de cancer et thrombose, mais au final, en termes de questions qui nous sont posées, c'est majoritairement lié à ça. Je vous incite aussi fortement à vous rapprocher de vos pharmaciens, de vos hôpitaux, parce que ça, c'est une aide extrêmement précieuse. Voilà, la décision multidisciplinaire dans ce genre de contexte est importante, puisque le cancer est un risque hémorragique, tout comme la mise en place d'anticoagulants. Et donc, il faut en discuter à plusieurs. Autre point aussi sur lequel ils insistent, c'est les situations dans lesquelles il faut préférer l'héparinothérapie par rapport aux AOD. C'est principalement les cancers digestifs, les cancers urothéliaux et rénaux. Il y a un essai, alors j'aurais bien aimé vous le présenter, mais au final ce sera que fin 2000, de cette année en fait. Et c'est un essai qui est un essai multicentrique, international, à l'initiative des Français, qui a inclus plus de 1400 patients qui avaient un cancer et une maladie veineuse thromboembolique anticoagulée pour une durée curative de 6 mois et chez qui on voulait poursuivre le traitement anticoagulant. Et on a comparé ces patients avec un bras traitement anticoagulant mi-dose versus un bras traitement anticoagulant pleine dose. Donc les résultats devraient être publiés pour la fin d'année. J'ai un peu les débuts de résultats, mais je n'ai pas le droit de vous les communiquer. Concernant la récidive sous anticoagulant, ça c'est la grande question. Et c'est vraiment le problème à chaque fois, clairement. Si on regarde les essais, enfin les essais, il n'y en a pas. Hein, c'est surtout des études rétrospectives. Si on regarde la façon dont on prend en charge ces patients, au final on se base sur quasiment rien. Mais quoi qu'il en soit, dans cette revue de littérature et ses dernières recommandations, il a été un petit peu donné une bonne marche à suivre par étapes. Tout d'abord, bien s'assurer qu'il s'agit d'une récidive, parce que les récidives sous anticoagulants, dans 50% des cas, qui est cancer ou pas, ce n'est pas une récidive. Donc bien s'entourer de vos radiologues et bien relire les examens d'imagerie. Deuxième chose, une fois que c'est confirmé, bien vous assurer que la compliance est bonne, qu'il n'y a pas eu un arrêt temporaire du traitement anticoagulant, que la dose est bonne. Que le cancer n'est pas en progression, ça c'est la principale cause de récidive sous anticoagulant, et qu'on n'a pas une thrombose induite par l'héparine. Et la troisième étape, c'est une fois qu'on a identifié par exemple des problèmes tels que problèmes de dose, problèmes d'insuffisance rénale ou d'interaction, de corriger ces problèmes-là. Si le patient était sous héparine, il va être conseillé d'augmenter cette dose de plus de 25%, encore une fois basée sur des données rétrospectives. Et si le patient n'avait pas d'héparine, de le passer sous héparinothérapie à dose curative dans le meilleur des cas. Troisième point, donc en tout cas, je vous incite à aller voir cette revue, hein, à l'initiative d'Innoviti, qui est vraiment très bien faite. Et chaque point est repris, notamment les thrombos sous cathéter, etc. Donc le troisième point dans la maladie veineuse thromboembolique, c'est l'apparition des nouvelles techniques de désobstruction. Donc vous le savez, les recommandations de 2019 de l'ERSESC ont été publiées et recommandent chez les patients qui ont une détérioration hémodynamique, donc des embolies pulmonaires classées comme graves, d'avoir un recours à la thrombolyse. Donc les embolies pulmonaires intermédiaires, de gravité intermédiaire haute, il n'y a pas de recommandation actuelle pour la thrombolyse. Hein, on a vu qu'on améliorait un peu l'hémodynamique, mais on avait des risques hémorragiques qui étaient majeurs. Lorsqu'on ne peut pas thromboliser du fait d'une contre-indication, et je rappelle qu'au final, il n'y a au final pas de contre-indication à la thrombolyse, la seule que l'on voit, c'est en gros une tumeur cérébrale ou un trauma crânien. On est bien dans des situations de sauvetage. Si on ne fait rien, le patient meurt. Donc au final, la contre-indication à la thrombolyse, c'est quasiment peanuts. Hein. On thrombolyse une femme enceinte qui fait une embolie pulmonaire grave. Hein. Sinon, elle décède. Donc on n'a pas d'autre choix. Mais lorsqu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas thromboliser, il faut proposer au patient une thrombectomie chirurgicale qui au final est assez peu pratiquée, sauf dans des centres extrêmement entraînés. Et l'arrivée justement des techniques interventionnelles percutanées qui commencent à être nombreuses et vraiment à s'engager très fortement sur le terrain et notamment à déborder un peu par rapport aux recommandations. Ils essaient vraiment de mettre en place ces techniques-là sur des embolies Or, ça n'a jamais été validé, ce ne sont que pour le moment des données de cohorte et aucune technique de thrombolyse versus thromboaspiration, par exemple, n'ont été encore validées. Ça n'a pas été encore validé. Pourtant, elles existent, ça reste du sauvetage et elles doivent être réservées à des vraies contre-indications à la thrombolyse ou alors à un échec de thrombolyse. Alors, il y a trois techniques sur le marché actuellement. Vous avez des techniques qui sont liées à des techniques interventionnelles où ils envoient des ultrasons pour détruire le caillot. Il y a des techniques de thrombolyse in situ. On met un cathéter au sein du caillot et on va injecter une petite dose d'actylyse dans le caillot, au sein du caillot. Et il y a la troisième technique qui est la technique de thromboaspiration, qui est la troisième, là, le flow retriever, là, ici. Qui, en tout cas, nous, c'est la technique que nous avons au CHU de Brest, que nous avons choisie parmi les trois. Alors, certains centres ont les trois. Nous, on a choisi celle-ci puisqu'elle a le mérite pour nous, en tout cas, d'être rapide. En gros, quand le patient rentre dans la salle d'hémodynamique, quand il en sort, on est à peu près à 40 minutes. Le geste peut être réalisé en 20 minutes. C'est un patient qui n'est pas endormi et qui permet très vite de lever, en fait, le problème hémodynamique. En gros, c'est juste une technique d'aspiration avec un appel d'air et on ramasse le caillot. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'être très précis. Le but, c'est juste de lever la majorité du caillot. Ce n'est pas comme de l'angioplastie dans le thrombus chronique. On n'est pas là pour faire la perfection. Le but, c'est juste de sauver et de laisser passer un cap au patient. Mais attention, il y a des essais actuellement qui sont en train bien d'évaluer dans des catégories de patients intermédiaires élevés, alors que pour le moment, les données disent que toutes ces techniques sont formidables, mais si on regarde la population, c'était même des gens qui avaient des embolies pulmonaires non graves. Donc attention à ne pas se faire, à pas s'emballer sur des techniques qui ne sont actuellement pas validées par la science médicale. Et enfin, juste un tableau récapitulatif concernant les nouveaux anticoagulants. Pour le moment, je n'ai pas de résultats de phase 3 à vous présenter puisque ces essais sont actuellement en cours. Il y en a beaucoup, donc c'est plutôt des anticorps monoclonaux, des anti-11, le facteur 11 étant un facteur de la coagulation. Ils ont été plutôt évalués là dans des essais de phase 2, beaucoup en prévention, par exemple en post-chirurgical, mais vous voyez qu'actuellement, en tout cas à Brest, on a cet essai-là, je crois qu'il y en a aussi à Morlaix, sur le cancer et la thrombose, où en fait il s'agit, en termes de modalité de traitement, des injections en sous-cutané toutes les 3 semaines, qui montreraient a priori qu'il y aura un intérêt dans le cancer puisqu'il y aurait moins de saignement. Donc ça a cet intérêt. Mais au final, les classes thérapeutiques pour le moment sont hétérogènes. C'est quelque chose qui est complémentaire aux AOD. Le bénéfice, il reste à démontrer dans les phases 3. La réversion, l'antidote, pour le moment, n'est pas défini. Mais au final, si on regarde les antidotes de l'héparine et des AOD, ça marche au bout de 24 heures dans les deux cas. Il faut aussi bien établir les interférences avec les tests de coagulation et le monitoring sera aussi à définir. Donc probablement dans les années à venir, j'aurai des choses un peu plus complètes à vous montrer. Et en tout cas, la place de ces nouveaux anticoagulants en sous-cutané sera bien mieux définie qu'actuellement en 2024, qui pour le moment reste de la recherche. Donc voilà, au total, quelques nouveautés, mais aussi final plutôt des essais qui sont en cours d'être terminés et des essais qui... quelques résultats importants à PICAT en fin d'année. Et il y aura RENOV aussi. Pour le moment, je n'ai pas le droit de vous communiquer les résultats. Certains connaissent cet essai. Des gens qui sont à haut risque de récidive, qui ont eu 6 mois de traitement anticoagulant et qu'on a randomisé mi-dose versus pleine dose. Et on regarde les risques thrombotiques et les risques hémorragiques. Pour le moment, je peux vous dire que les résultats sont assez intéressants et devraient être décrits et publiés assez rapidement en fin d'année. Deuxième partie, donc c'est l'hypertension pulmonaire, quoi de neuf en 2024. Donc là, il y a beaucoup en fait de nouveautés, oui, parce qu'en tout cas, les recommandations internationales viennent d'être publiées. Donc, comme vous le savez, c'est une maladie grave. On a 60% de survie seulement à 3 ans jusqu'à présent, mais les nouvelles découvertes vont permettre un petit peu de modifier un peu ce profil de patient. Tout d'abord, concernant la classification et le diagnostic, vous savez qu'il est très important, lorsqu'on fait de l'hypertension pulmonaire, de bien classer nos patients dans un groupe, puisqu'à chaque groupe correspond une prise en charge qui lui est propre. Si on regarde le groupe 1, pas de grand changement, si ce n'est en tout cas tout d'abord la génétique. On a découvert de nombreux gènes comme étant associés à un risque plus important d'hypertension pulmonaire. Et donc maintenant, les patients qui auront une hypertension pulmonaire qu'on classera de groupe 1 auront tous un dosage génétique. Donc on va avancer sur ce domaine. Un petit rappel sur les traitements qui peuvent donner des hypertensions pulmonaires. Le médiator, ça c'est important à l'interrogatoire, tous les coupes fins. L'amphétamine, beaucoup plus important aux États-Unis. Et certains traitements anticancéreux. Dans le groupe 2, il n'y a pas de grand changement en termes de classification. Dans le groupe 4 non plus, ça reste des patients qui ont fait une embolie pulmonaire et dont le caillot ne s'est pas résorbé malgré un traitement anticoagulant au long cours. Donc il n'y a pas de changement en termes de classification. Par contre, dans le groupe 3, c'est là que c'est intéressant, c'est un petit peu le groupe du pauvre de l'hypertension pulmonaire où au final on n'a pas vraiment de traitement, en tout cas pas de traitement validé. Et où jusqu'avant, en 2022, on avait une classification qui était plutôt d'ordre fonctionnel de ce groupe, c'est-à-dire est-ce que le patient il est obstructif, il est restrictif. Et bien maintenant, on est sur une classification qui est plus sur la pathologie. Donc vous voyez que là, on passe du restrictif obstructif à est-ce que le patient a de l'emphysème, est-ce qu'il a une BPCO, est-ce qu'il a une pneumopathie interstitielle, est-ce que c'est combiné fibrose-emphysème, est-ce qu'il va nous permettre de classer mieux ces patients, de mieux les étudier dans chacune des maladies et grâce au registre d'en tirer des conclusions. Donc c'est vraiment un groupe qui mérite actuellement son attention et vous le verrez après pour sa prise en charge aussi. Concernant la stratégie diagnostique, l'échographie cardiaque reste l'examen de référence de dépistage. Pas de diagnostic, mais simplement de dépistage, parce que vous le savez, il est opérateur dépendant, machine dépendant, patient dépendant, angle dépendant de la sonde, mais ça reste l'examen de dépistage, puisqu'il n'est pas invasif. Il faut bien faire attention quand vous formulez une demande de recherche d'hypertension pulmonaire, de bien le spécifier sur le bon, puisqu'il y a effectivement des signes directs d'hypertension pulmonaire, qui sont la fuite tricuspide à plus de 2,8, mais il y a aussi des signes indirects. Et si on ne le demande pas à nos collègues cardiologues, ce n'est pas forcément recherché. Votre cardiologue va vous répondre, probabilité faible, intermédiaire ou forte d'hypertension pulmonaire, et c'est ça qui va vous faire vous guider ensuite dans la suite de la prise en charge. Il faut aussi savoir que cette échographie cardiaque, elle doit être faite de façon systématique dans certaines maladies, notamment la sclérodermie et les patients cirrhotiques. Et les VIH aussi. Alors, les recommandations qui ont été publiées là, fin août ou début septembre, elles ont le mérite, je trouve, de clarifier un petit peu l'ensemble du bilan qui doit être fait et surtout les rôles de chacun. En gros, soit vous pouvez faire dans les hôpitaux qui ne sont pas centres de compétences ou de référence l'échographie cardiaque et un bilan minimal de FR et un scanner thoracique et dès que vous le suspectez, référez les patients au centre de référence ou de compétences le plus proche de chez vous. Soit vous pouvez aussi, dès le début, si vous faites juste, par exemple, dans un suivi d'embolie pulmonaire, une scintigraphie et une échographie cardiaque, le transférer aussi directement. Vous pouvez aussi faire l'ensemble du bilan, scanner thoracique, test de marche, EFR, ETT scinti. Par contre, le cathétérisme cardiaque droit doit être réservé au centre de compétences et de référence. D'expérience, à chaque fois que c'est fait ailleurs, nous, on le refait, puisque le test ONO, le remplissage, le gradient transhépatique n'a pas été réalisé. Et donc, c'est quand même dommage de devoir refaire un deuxième examen au patient, qui est quand même un examen relativement invasif. Donc, voilà, ça a le mérite un petit peu en termes de stratégie diagnostique, de définir le cadre de façon un petit peu plus précise. Concernant les traitements, alors ça va, en termes de mesures générales, c'est valable pour tous les groupes. Il n'y a pas de grande révolution, mais il faut vraiment retenir que la contraception doit être efficace, puisque selon les cohortes, entre 20 et 60% de décès maternels au cours d'une grossesse. Donc il faut vraiment inciter très fortement les femmes à ne pas faire d'enfants, et si une grossesse est en cours, à interrompre cette grossesse. Bien que les dernières recommandations ouvrent une porte de façon pas très importante quand même, auprès des femmes, puisque ça, c'est une pression très importante des associations de patients, qui est légitime, hein, mais pour le moment, les données restent assez effrayantes concernant la grossesse et l'hypertension pulmonaire. Il s'agit de la seule pathologie cardiovasculaire qui contre-indique en fait, la grossesse. L'oxygène, comme dans les recommandations standards, les diurétiques sont très importants pour diminuer la précharge. Et là, ce qui est un peu nouveau, mais même par rapport à 2022, c'est que l'anticoagulation qu'on mettait à tous nos patients qui avaient une HTAP avant, en se disant, bon, les vaisseaux, ils sont vasoconstrictés et remodelés, ils vont faire des thrombus in situ. Donc, on anticoagulait tous nos malades. Maintenant, c'est uniquement réservé au groupe 4, c'est-à-dire au post-embolique. On arrête de le faire dans le groupe 1. Donc, si vous voyez un patient qui est passé entre les mailles du filet et qui a toujours un anticoagulant uniquement à cause de son HTAP, vous pouvez l'arrêter. Enfin, les bêta-bloquants, alors interdiction, c'est relatif. Si par exemple, on a un patient qui a une pathologie cardiovasculaire, la balance bénéfice-risque est de plutôt le lui laisser, mais en le baissant à une dose minimale. En revanche, s'il s'est mis sur des extrasystoles, il faut l'interrompre parce que c'est chronotrope négatif. Il faut vacciner nos patients. On peut aussi leur offrir une réhabilitation respiratoire. Alors avant, on leur disait à nos patients, surtout, aucun effort physique, risque de mort subite. Or là, un dernier essai dont on est en train de rédiger l'article, qui a été fait grâce au professeur Bertolitti de Saint-Étienne, qui s'appelle Fonce HTAP, qui évalue la réhabilitation chez nos patients équilibrés avec un bon débit cardiaque qui ont une hypertension pulmonaire. Eh bien, on voit que ça a un effet extrêmement bénéfique à tout point de vue, NYHA, donc dyspnée, test de marche, BNT, pro-BNP, et les résultats vont être publiés aussi en fin d'année. Et enfin, il faut aussi retenir que tous ces patients sont contre-indiqués, jusqu'à preuve du contraire, à toute anesthésie générale. Donc, ne pas aller, ça arrive assez souvent, même pour des simples colonoscopies, on va endormir les patients. Or, il y a un risque de mortalité sur la table qui est extrêmement important. Donc, on peut le faire à la seule condition que le centre de compétence et de référence ait donné son accord. Ça va dépendre vraiment de la gravité hémodynamique. Donc, ça, c'était les mesures générales globales qui ont été rappelées dans les dernières recommandations. Concernant maintenant les traitements, je vais passer, insister plus sur les groupes 1 et les groupes 3. Alors, dans le groupe 1, vous savez qu'il y a actuellement trois voies qu'on utilise dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, je parle bien de la maladie du vaisseau, où le vaisseau est vasoconstricté et épaissi, remodelé. Donc, vous avez la voie des antagonistes des récepteurs de l'endothéline, le bosentan et l'ambrisentan. Donc, j'ai pas le droit de dire de marque, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Traclir et Volibris, c'est plus simple. La voie du NO, il y a le sildénafil et le tadalafil. Donc, le Revatio qu'on utilise moins, mais c'est plutôt la Tirca. Donc, c'est l'équivalent du Viagra, vasodilatateur. Et il y a aussi une voie alternative qui est le riociguat, que là, on va mettre dans les groupes 4. Troisième voie, la voie des prostacyclines, donc ça vous connaissez, c'est l'époprosténol, c'est le plus puissant vasodilatateur qui existe, qui se met sous forme de cassette à débit continu sur 24-48 heures chez les patients avec toutes les contraintes que ça inflige aux patients. Et une forme de tréprostinyl inhalé aussi, cette forme de prostacycline que les patients vont prendre en inhalé plusieurs fois par jour. Ça c'est assez nouveau et on en reparlera pour le groupe 3. Ces trois traitements sont plutôt vasodilatateurs, et agissent du coup sur cette composante de l'hypertension artérielle pulmonaire qui est de réouvrir les artères pulmonaires, réouvrir la lumière vasculaire pulmonaire pour que l'échange gazeux arrive jusqu'aux alvéoles et la membrane alvéolo-capillaire. Et la nouveauté, c'est l'apparition des inhibiteurs de la signalisation de l'activine, le sotatercept, qui est le nouveau traitement qui lui aurait un effet plutôt remodelage des vaisseaux pulmonaires. Donc c'est pas une molécule qui se substitue aux trois autres. C'est vraiment une molécule qui s'additionne à ces trois autres voies qu'on avait jusqu'à présent dans notre pharmacopée pour l'hypertension pulmonaire. Ça c'est vraiment une grande nouveauté. Alors si on regarde l'essai principal concernant cette molécule, il y a eu plus de 300 patients qui ont été inclus. C'était une méthode qui était assez stricte en termes de méthodologie, où si le premier critère n'était pas validé, on ne pouvait pas analyser le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième critère. Et en fait, on voit d'excellents résultats, tant sur la dyspnée, sur la NYHA, sur le NT-proBNP, sur le taux de décès et sur la qualité de vie. Et je vois que Sophie, tout à l'heure, nous a présenté des essais sur la mucoviscidose. Et nous, en tout cas, l'impression qu'on en a dans notre réseau d'hypertension pulmonaire, c'est qu'on est un petit peu dans ce début de changement d'air et de changement de pronostic et de changement de prise en charge de nos patients grâce à cette molécule. Et c'est ça qui, pour nous, est vraiment intéressant. Donc actuellement, il y a toujours un essai hyperion qui est en cours. Moi, l'exemple que j'ai un patient qui est inclus dans cet essai et je l'ai sevré de l'oxygène. Donc pour vous dire quand même qu'on arrive sur des prises en charge qui sont quand même plus agréables pour les patients. Et l'autorisation précoce est possible actuellement. On en a mis trois patients à Brest, là déjà. Ils en sont à leur deuxième et troisième injection. Pour le moment, j'ai pas d'effets secondaires d'ailleurs qui peuvent être hémorragiques, notamment, sur lesquels on doit être un petit peu plus vigilant. Je commence à avoir des améliorations déjà sur la qualité de vie, ce qu'ils commencent à décrire. Et on espère pouvoir avoir ce traitement disponible en France dès l'année prochaine. Concernant la stratégie thérapeutique, quand un patient, on en fait le diagnostic, on va évaluer si le patient est à faible risque ou à haut risque. Et puis, en conséquence, plus le patient est à haut risque, plus on va taper très fort d'emblée sur des trithérapies, un peu comme on disait tout à l'heure. Au début, dans le VIH, on mettait un premier traitement, puis un deuxième, puis on voyait un troisième. Maintenant, nous, on tape très fort sur la maladie. Si on n'est pas à haut risque, on va plutôt assurer avec une bithérapie, mais de nos traitements vasodilatateurs type antagoniste des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiestérase. Ensuite, ces patients, ils sont évalués, toujours une deuxième fois, le temps qu'on trouve l'équilibre et le traitement le plus adéquat, à 3-4 mois. Et vous voyez que cette nouvelle molécule, elle est déjà mise en place de plus en plus tôt, puisque dès que le patient n'est pas à faible risque, on a l'inhibiteur de l'activine qui pourra être mis en place. Donc, ce n'est pas un remplacement de l'hépoprosténol, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça va arriver assez vite, on va avoir beaucoup moins de patients qui auront, on l'espère, cet hépoprosténol qui reste quand même un médicament qui marche pour le moment le mieux, mais qui a des contraintes tellement importantes auprès des patients. Pour vous donner un exemple, on a une patiente à Brest qui vient de Quimper d'ailleurs, qui a 24 ans, qui a une mutation génétique d'ailleurs, BMPR2, et qui a donc sa pompe, donc qui elle adorait nager et ne peut plus nager, qui voit sa vie un peu modifiée par ce traitement, et donc ça, c'est vraiment des contraintes importantes pour les patients, ça a plus les risques infectieux que ça comporte. Voilà pour le groupe 1. Pour le groupe 2, il faut traiter la maladie causale. Moi, j'adresse mes patients à mes collègues cardiologues. Il n'y a pas de nouvelle thérapeutique, mais je sais que le sotatercept est aussi en cours d'évaluation. Concernant le groupe 3, vous savez que dans 30% des cas, on peut observer une hypertension pulmonaire chez les patients, notamment BPCO. La première chose à faire, c'est d'essayer de contrôler la BPCO avec nos traitements inhalés, l'arrêt du tabac, etc., bien entendu. Il faut aussi savoir que lorsqu'un patient qui est BPCO, qui fait une exacerbation, il va avoir des pressions artérielles pulmonaires à l'échographie cardiaque qui peuvent être augmentées. Ça ne veut pas dire que le patient a une hypertension pulmonaire. Par contre, il faut recontrôler cette échographie cardiaque à 6 semaines, le temps que l'exacerbation pulmonaire soit traitée. Dans le registre français d'hypertension pulmonaire, on s'aperçoit que, alors qu'on n'a aucune thérapeutique prouvée dans l'hypertension pulmonaire de ces patients BPCO, 60% des patients sont au final traités par un traitement spécifique à titre compassionnel. On a du mal en tant que médecin à dire non, on ne peut rien faire pour vous et on ne peut pas s'empêcher de traiter. Alors, ce n'est pas basé complètement sur rien non plus, mais comme vous le voyez, c'est basé sur deux petits essais de 28 et 42 malades avec les inhibiteurs de phosphodiestérase, sildénafil et tadalafil, où on a l'impression que ça marche, mais on ne peut pas conclure en chose avec aussi peu de malades. D'où l'essai ERAS-COPD, qui est à l'initiative du professeur Montani de Bicêtre, qui est un PHRC, qui est dans tous les centres de référence et de compétences d'hypertension pulmonaire, où on va évaluer sur une plus grande échelle, et les patients qui ont une BPCO sévère avec des résistances plus importantes, l'intérêt de la TIRCA, donc un IPDE5 versus placebo, pour enfin répondre à la question. Alors que la réponse soit ça marche ou ça marche pas, peu importe, ça répondra à la question. Donc là où jusqu'à présent, dans la BPCO, au final, on n'allait pas jusqu'au KT, puisqu'on disait de toute manière, on n'a pas de thérapeutique, c'est important de nous les adresser parce que quand même, on pourra les inclure dans cet essai et peut-être leur proposer un traitement et nous permettre enfin de donner une réponse claire et nette sur cette catégorie de patients. Concernant les pneumopathies interstitielles, là, la prévalence, elle est un petit peu plus faible, mais néanmoins importante, de 10 à 15%. Il faut bien entendu traiter la maladie causale. Vous avez ici les essais, notamment avec le nintedanib et le pirfenidone, et la pirfenidone. Mais concernant l'hypertension pulmonaire, eh bien, il y a un essai qui a été publié concernant le tréprostinil, donc c'est l'équivalent de l'époprosténol, mais inhalé, dans l'essai INCREASE, qui montre des résultats encourageants. Donc, chez 462 patients, on montrait qu'on améliorait le test de marche de 6 minutes et on diminuait le NT-proBNP. Ce qui est curieux dans cet essai, c'est qu'on n'a pas de données hémodynamiques, par contre. Donc, on reste un petit peu quand même prudent sur cette thérapeutique. En attendant, ben, pour le moment, c'est la seule qu'on peut proposer et qui a été quand même validée dans un essai randomisé, prospectif, multicentrique. Mais ça reste du traitement compassionnel. Donc, il ne faut pas hésiter à adresser vos patients dans des centres de compétences et de référence pour que les dossiers soient discutés en amont et pour savoir si on peut leur proposer ce traitement. Actuellement, nous, on présente ces dossiers directement avec le docteur Ségolène Turquier, qui est dans le centre de référence de Lyon, qui est vraiment très spécialisé dans la pneumopathie interstitielle. Et enfin, dans le groupe 4, alors pas de grande nouveauté pour terminer. Vous savez que le groupe 4, c'est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc, c'est en fait la définition, c'est la présence d'une hypertension pulmonaire précapillaire associée à des défects perfusionnels et après 3 mois d'une anticoagulation efficace. Ce qui veut dire que lorsque vous avez, lors d'un épisode aigu d'embolie pulmonaire, des pressions très élevées, une grosse charge thrombotique, vous ne pouvez pas considérer que c'est de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique tant que vous n'avez pas anticoagulé vos patients au moins 3 mois. Il y a plein de scanners où on va vous répondre signe chronique, etc. Ce n'est absolument ni sensible ni spécifique. À partir du moment où il y a quelque chose dans un vaisseau, c'est considéré comme de l'aigu jusqu'à preuve du contraire si le traitement anticoagulant n'a pas été établi pendant 3 mois. Alors les traitements, c'est surtout cette notion, c'est pas d'une nouveau thérapeutique, mais c'est surtout la notion de approche multimodale qui est intéressante, c'est-à-dire avant on disait à un patient vous êtes éligible à la chirurgie, vous n'êtes pas éligible, vous êtes éligible à l'angioplastie. Maintenant, moi j'ai des patients qui ont été endartériotomisés, c'est-à-dire opérés d'un côté, qui ont eu l'angioplastie de l'autre côté et qui ont en plus un traitement spécifique médicamenteux type riociguate qui leur a été instauré. Donc on est vraiment un peu comme dans l'HTAP en train de raisonner, on tape fort, on fait le max qu'on peut pour essayer de sauver les patients, sachant que dans cette catégorie, c'est la seule catégorie d'hypertension pulmonaire dans laquelle on peut sauver les gens et les guérir. Donc voilà, c'est juste cette notion d'approche multimodale. Le choix de la chirurgie va plutôt se porter chez des patients qui ont des thrombus très proximaux et accessibles à la chirurgie. L'angioplastie va être plutôt chez des patients qui ont des lésions un peu plus distales et certaines formes en plus de thrombus. Et enfin, le traitement médicamenteux, c'est lorsqu'on suspecte une microvasculopathie qui s'apparente au groupe 1, ou alors que les résistances sont trop élevées, ou alors en attendant l'angioplastie, puisqu'on a montré que traiter médicamenteusement les patients avant l'angioplastie, ça a amélioré leur pronostic. Voilà, donc pour terminer, vous avez ici le réseau français pulmotension avec les centres de référence et de compétences d'hypertension pulmonaire. Pour approcher au plus proche du centre concerné, avec ici l'adresse du site Respifil où vous aurez justement les adresses et les correspondants directs et surtout les PNDS adressés aux différents médecins qui s'occupent des patients d'hypertension pulmonaire. Et ici, les références du centre HTAP au CHU de Brest où on a maintenant une chargée de mission qui répond à toutes vos questions 5 jours sur 7. Et on répond aussi sur une plateforme OmniDoc à tous les avis, bien entendu, en cas d'urgence, l'astreinte pneumologique 7 jours sur 7. Et aussi, on a à Brest un avis de thrombose qui s'adresse à tous les libéraux, tous les hôpitaux de la région assez large en Bretagne, sur toutes les questions sur les anticoagulants et la maladie veineuse thromboembolique. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Cécile. Il y a la place pour une question. Est-ce qu'il y a une question ? Non, pas de question particulière.
Aussi, moi j'ai une petite question en fait. Est-ce que ce serait possible de nous redire à partir de quand dans la BPCO on considère que l'HTAP est vraiment disproportionné et qu'il y a...
Alors. En gros, un patient qui a un emphysème de plus de 50-60% qui atteint votre poumon, que vous avez moins de 500 ml de VEMS et que votre patient est hypercapnique, on pense a priori que c'est quelque chose de proportionné. Voilà. Donc c'est, alors j'ai envie de vous dire, ce n'est pas forcément la peine d'adresser au centre de compétences, mais j'ai envie de vous dire oui, puisque maintenant on a un essai pour évaluer justement des thérapeutiques dans ce domaine. Mais c'est vrai que si on est sur du proportionné, et ce que nous on appelle proportionné, c'est au cathétérisme lorsqu'on a des résistances à moins de 5 unités Wood. Là, on se dit que la raréfaction du parenchyme pulmonaire, la raréfaction, pardon, des vaisseaux au sein du parenchyme pulmonaire est proportionnée à l'hypertension pulmonaire. Donc en gros, quelqu'un qui a au final une BPCO stade 2-3, qui n'est pas hypercapnique et qui présente à l'échographie cardiaque des signes d'hypertension pulmonaire, pour nous c'est quelque chose qui est disproportionné, qui n'est pas forcément normal.
Bon, comme on est 4 minutes un peu au-dessus du temps, on clôt du coup la session et je vous propose d'aller prendre une collation. Et on reprend à 11h15.